Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre tchèque entame une visite aux États-Unis avec la centrale nucléaire de Temelín comme objet d'intérêt américain. Finance, la population a commandé des obligations pour plus de 20 milliards de couronnes. Et puis enfin en sport, en tennis, Petra Kvitova a remporté son premier match au Masters d'Istanbul. Après avoir participé ce mercredi soir au sommet de la zone euro à Bruxelles, le Premier ministre Petr Nečas prendra la direction des États-Unis jeudi. À Washington, le chef du gouvernement tchèque sera reçu à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama. Les États-Unis sont surtout intéressés par le projet d'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín, pour lequel un appel d'offres a été lancé par le gouvernement tchèque. Outre la construction de deux nouveaux réacteurs à Temelín pour 2020 au plus tôt, la réalisation de trois autres réacteurs à plus longue échéance fait également partie du projet, dont le montant total pourrait s'élever jusqu'à 20 milliards d'euros. Le résultat de l'appel d'offres devrait être connu en 2013. Les trois prétendants sont les groupes américains Westinghouse, français Areva et russe Atomstroy Export. La société russe Rosatom Overzas, filiale de la société nationale Rosatom, a signé des contrats de coopération avec 15 sociétés russes productrices et fournisseuses d'éléments et de services pour l'industrie nucléaire. L'information a été communiquée ce mercredi par la société Heretic Public Relations. Les entreprises tchèques participeront à la production et au montage des installations pour les nouveaux blocs de centrales nucléaires selon les technologies russes et ce, en Russie comme à l'étranger. Les contrats pourrait également concerner la centrale de Temelín en Bohême du Sud. La société Atomstroy Export, membre du groupe Rosatom appartenant au consortium russo-tchèque, candidat à l'achèvement de la plus grande centrale existante en République tchèque. Finance, 20 milliards 400 millions de couronnes, soit 816 millions d'euros d'obligations qui seront prochainement émises par le ministère des Finances ont été commandées par la population. Il s'agit d'un chiffre plus de deux fois supérieur à celui initialement envisagé. C'est ce qu'a confirmé ce mercredi le ministère. Près de 33 000 personnes physiques ont notamment commandé et payé des obligations. Trois types d'une validité allant de 1 à 5 ans étaient proposés. Chaque titre possède une valeur de une couronne. Le montant minimal d'une commande étant de 1000 couronnes, soit 40 euros. Les obligations seront émises le 11 novembre. La Chambre des députés a rejeté le projet d'amendement présenté par le Parti communiste visant à limiter le coût des campagnes électorales menées par les partis politiques. Selon le texte, le montant des frais engagés aurait dû être plafonné à 50 millions de couronnes, soit 2 millions d'euros pour les élections législatives, et à 20 millions de couronnes, soit 800 000 euros pour les élections régionales. Au cas où ces limites n'auraient pas été respectées, les partis politiques auraient été passibles d'importantes sanctions. Le gouvernement envisage toutefois de présenter prochainement son propre projet, dont l'objectif sera de rendre plus transparent le financement des campagnes électorales. On passe à la culture, c'est Daniela Hodorova qui est lauréate du prix d'État de littérature de cette année. En lui attribuant cette distinction, le jury a apprécié son dernier roman intitulé Vivo Lavani, Invocation, et aussi l'ensemble de son œuvre. Daniela Hodorova est née en 1946 à Prague, dans la famille de l'acteur Zdeněk Hodr. Cette écrivaine et théoricienne de littérature est entrée dans la littérature tchèque dans les années 1970, mais ses œuvres romanesques n'ont été publiées qu'après la chute du communisme dans les années 1990. On passe au sport et au tennis. Petra Kvitova a remporté son premier match de groupe comptant pour le Masters mardi à Istanbul en battant la Russe Viera Zvonareva en 2-7, 6-2, 6-4. Dans l'autre match du groupe dans lequel figure la joueuse tchèque, la Danoise Caroline Wozniacki, numéro 1 mondial, a battu la Polonaise Agnieszka Radwanska en 3-7. Le Masters réunit, rappelons-le, les 8 meilleures joueuses de la saison. Jeudi, Petra Kvitova, vainqueur de Wimbledon en juillet dernier et numéro 3 mondial depuis lundi, disputera son deuxième match contre Agnieszka Radwanska. En cas de nouvelle victoire, la Tchèque serait pratiquement assurée de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. On termine avec un mot de météo. Ce jeudi, le ciel est couvert sur l'ensemble du territoire avec quelques pluies par endroit et les températures maximales varient entre 10 et 14 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rosinkova qui vous accompagne pour la suite de notre programme. We'll be right back. faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. À la une de l'actualité tchèque, la fin de la mission de l'armée tchèque au Kosovo, le bilan de cette mission qui a duré 12 ans dans cette émission. Nous vous parlerons ensuite d'une exposition un peu particulière qui est à voir au centre de Prague, car ce sont des artistes allemands ayant un handicap mental qui présentent leurs œuvres au public tchèque. Dans les chapitres de l'histoire, aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Richard, doctorant français en co-tutelle entre Paris et Prague, qui s'intéresse entre autres au rôle des jésuites dans la reconquête catholique de la Bohème au XVIIe et XVIIIe siècle. Très bonne écoute à toutes et à tous. Après une mission de 12 ans dans les unités de la KFOR, l'armée tchèque se retire du Kosovo. La situation dans cet état créé après la désagrégation de l'ancienne Yougoslavie où doivent coexister tant bien que mal les ethnies serbes et albanaises est cependant loin d'être calme. Et on se demande donc si le retrait des soldats tchèques arrive à un bon moment. Václav Richter.
C'est ce mercredi qu'a été fermée la base de l'armée tchèque à Švejkovac, au Kosovo, qui sera transformée en un centre de distribution d'eau pour la population locale. Le commandant de la base, Josef Nejedli, a fait depuis 2001 3 missions à Švejkovac.
Nous sommes vraiment le dernier contingent dans la zone de la base de Švejkovac, et c'est avec la conscience d'être les derniers que nous sommes venus. La liquidation de cette base provoque des émotions et évoque en moi les souvenirs de mes 2 missions précédentes.
Lors de la première mission de Josef Nejedli en 2001, les soldats étaient obligés d'intervenir dans des conflits entre les ethnies serbes et albanaises, mais leur vie n'était pas directement menacée. Le danger qu'ils couraient était cependant plus grave que lors des 2 missions suivantes du commandant tchèque. Il rappelle que par la suite, les soldats tchèques intervenaient non seulement dans des conflits de caractère ethnique, mais aussi dans des incidents criminels.
Lors de ces incidents, on nous reprochait de nous occuper plus de l'une ou de l'autre partie, des Serbes ou des Albanais. Mais je pense que la majorité de la population percevait la présence des forces tchèques très positivement. Il y a eu bien sûr aussi des incidents désagréables lorsque nous nous sommes vus obligés d'intervenir contre l'extraction illicite de matières premières ou contre des passages illégaux de frontières. Ce qui était perçu en général négativement par celles des 2 parties qui étaient prises sur le fait.
Toujours est-il que l'armée tchèque quitte le Kosovo au moment où les conflits ethniques dans cette petite république qui n'est pas encore reconnue à l'unanimité par la communauté internationale sont loin d'être tout à fait conjurés. Le colonel Václav Vlček du ministère tchèque de la Défense estime pourtant que la surveillance internationale sur cette région explosive sera suffisamment assurée.
Comme le prévoyait le plan, la République tchèque, qui faisait partie des forces du centre, quitte avec ses partenaires cette partie du Kosovo, parce que le commandant en chef de la KFOR dispose de forces suffisantes pour réagir au scénario de crise. Pour le moment, le commandant en chef de la KFOR dispose de près de 5500 hommes, ainsi que des réserves au niveau du commandant des forces communes à Naples.
Cette opinion est également partagée par David Vondráška, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés tchèques. À son avis, un rôle important doit être joué maintenant par la mission EULEX, créée par l'Union européenne pour promouvoir l'état de droit au Kosovo.
La coexistence entre les ethnies du Kosovo n'est pas du tout facile, mais je pense que la présence militaire n'est plus nécessaire en ce moment. Il faut que, par exemple, le LEX remplisse sa mission fondamentale. D'autre part aussi, certaines unités de la KFOR restent sur place. Donc il y a toujours un contingent militaire, bien que sans la participation tchèque.
Au cours de la dernière décennie, 8000 soldats tchèques se sont relayés au total dans la base de Švejkovac. Le dernier soldat est parti ce mercredi.
La galerie Art in Box, située rue Perlova, dans la vieille ville de Prague, expose à partir de ce mercredi jusqu'au 15 novembre prochain les œuvres sur papier de 5 artistes allemands et d'un plasticien tchéco-italien qui ont tous un handicap mental. Ces collages et dessins abstraits ou en couleur parlent des émotions de leurs auteurs et ils peuvent aussi évoquer des images urbaines ou des paysages. L'exposition s'appelle en tchèque « Mentální vrstevnice », titre qui fait allusion au terme géographique de « courbe de niveau ». Le commissaire de l'exposition, Terezia Zemankova, nous en dit plus.
Il s'agit de 5 auteurs qui viennent de l'atelier qui s'appelle HPCA, qui est à côté de Munich, et qui était créé en 1992 par artiste et pédagogue qui s'appelle Klaus Mechlein, et qui a réuni les auteurs qui ont un talent particulier, qui ont un don particulier artistique. Et maintenant, dans cet atelier-là, il y a 12 personnes qui arrivent travailler là-bas chaque jour, et les autres qui arrivent pas régulièrement. Et à côté de ces 5 auteurs de cet atelier HPCA, nous avons invité l'auteur qui s'appelle Vít Kosinka, qui est d'origine tchèque, mais qui habite en Italie. Il est né de parents tchèques qui sont émigrés dans les années 70 de la République tchèque en Italie. Donc, mais maintenant, il ne parle qu'italien. Il habite là-bas et il travaille pour un atelier pas très loin de Rome. Et cet atelier s'est basé sur l'idéologie de Rudolf Steiner. Les écoles Waldorf.
Et quelles sont les techniques utilisées par ces artistes handicapés?
Vít Kosinka, elle travaille par feutre. Elle fait aussi des collages de papier. D'ailleurs, elle travaille par n'importe quelle technique. Et les autres, les artistes de HPCA, ils travaillent d'habitude avec le pastel à huile, où il y a aussi le pastel sec.
Ils donnent des titres à leurs œuvres? Vous les présentez sans titre?
Non, presque jamais. Et on a appelé l'exposition le Mental Contour ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas vraiment une métaphore. Ce titre, il décrit un peu la technique par laquelle ils travaillent, parce que souvent ils font une couche par une couleur et après ils le couvrent par les autres couleurs. Ça veut dire qu'il y a une espèce de couche de couleurs qui se mêlent ensemble, qui se grattent ensemble et qui font un effet, qui font une espèce de relief ou quelque chose comme, ouais, d'un relief plastique. Donc ça veut dire que ça rappelle un peu la... On peut parler d'une géographie mentale ou de quelque chose comme ça qui est très concrète.
C'est une sorte de thérapie pour eux?
Oui, on peut le considérer comme une sorte de thérapie, mais c'est pas art-thérapie dans son propre sens, parce que le but de leur création n'est pas de les soigner. C'est pas la question. Donc, il y a bien sûr une certaine espèce d'intervention des assistants ou des pédagogues. Mais c'est seulement au niveau de la technique, du format de papier et tout ça. Mais je crois que pour les artistes eux-mêmes, la création est une espèce de thérapie, ou plutôt que de thérapie, c'est de l'expression de leur personnalité, parce que beaucoup d'eux ne sont pas capables de communiquer par une autre façon.
Est-ce que cet atelier s'expose souvent à l'étranger?
Oui, moi je l'ai trouvé à Bratislava il y a 3 ans pendant l'exposition In Zita. Et elle expose de temps en temps. Mais nous avons choisi les œuvres qui sont uniquement abstraites, parce que nous croyons que l'absence de modèles concrets nous donne beaucoup de liberté. Nous, comme aux spectateurs et aux artistes aussi, parce que nous ne sommes pas... Nous n'avons pas intention ou besoin de comparer avec la réalité ou, disons, avec des dessins des enfants ou une autre expression artistique. Ces œuvres abstraites sont, d'après moi, comparables avec les œuvres de professionnels, mais qui sont arrivées au même bout par un chemin complètement différent, par un chemin de la réduction intellectuelle, disons. Et ces artistes avec un handicap mental, pour eux, il s'agit d'une expression très spontanée, très bref, disons.
C'était Terezia Zemankova de la galerie pragoise Art in Box. 8 novembre 1620, les armées protestantes de Bohême sont défaites par les troupes habsbourgeoises catholiques, mettant un coup d'arrêt définitif à la liberté de confession en pays tchèque et amorçant le processus de la contre-réforme. Avec Nicolas Richard, doctorant français en co-tutelle entre Paris et Prague, Anna Kubishta s'est intéressée à son sujet de thèse consacré au clergé catholique dans la période qui a suivi cette fameuse bataille. Nous vous proposons la seconde partie de cet entretien.
Chapitre de l'histoire.
Nicolas Richard, vous êtes doctorant. Nous sommes intéressés dans une première partie de cette rubrique historique aux raisons pour lesquelles vous avez commencé à étudier l'histoire du clergé après la bataille de la Montagne Blanche en Bohême. Également, nous sommes intéressés à l'importance des églises baroques dans la reconquête de la contre-réforme. Dans cette deuxième partie, j'aimerais évoquer le rôle des jésuites, puisqu'évidemment, ils ont eu un rôle extrêmement important dans cette reconquête catholique dans la Bohème hérétique du XVIIe-XVIIIe siècle. Alors justement, ces jésuites, dont on sait que souvent, ils avaient une faculté d'intégration, presque d'incarnation avec les populations qu'ils essaient de conquérir. Comment justement font-ils pour conquérir ces âmes et ces brebis perdues ?
Alors, le problème des jésuites est que pour les étudier, il faut être extrêmement prudent parce que les premiers ennemis des jésuites sont les jésuites eux-mêmes. L'historiographie jésuite à la gloire de la compagnie dès le XVIIe siècle est quelque chose d'extraordinaire. Il est difficile de ne pas se laisser prendre au piège de leurs relations qui sont des merveilles de publicité, pour employer un terme moderne. Ces lettres fournissent des récits de conversion, des récits de mission qui sont extrêmement détaillés. On n'en retrouve pas ailleurs dans les archives de comparables, mais d'un autre côté, les utiliser est un véritable problème. Donc, comment s'y prennent les jésuites ? Une fois qu'on a fait la part de la difficulté d'entrer vraiment dans l'historiographie jésuite, il faut bien considérer que la force, du moins en Bohême, des jésuites, c'est d'avoir su créer des collèges, c'est d'avoir su former très rapidement, dès le XVIe siècle, une compagnie assez forte, assez nombreuse, de gens qui parlent tchèque, voire qui sont d'origine tchèque et qui sont intellectuellement capables de polémiquer avec les protestants tchèques. Ça, c'est la force de la compagnie. Et dès le lendemain de la Montagne Blanche, est créée la province bohème de la Compagnie de Jésus. C'est une province qui compte entre 200 et 300 pairs, si je ne m'abuse. Donc la Compagnie de Jésus forme véritablement un diocèse dans le diocèse de Prague. Mais ces jésuites ne s'intéressent pas directement à la gestion au quotidien des paroisses. Eux, ce qu'ils font, ce sont d'abord des missions qui sont en fait de deux types. Il y a des missions de conversion liées aux commissions de reconquête, donc des missions de conversion où on explique aux gens pourquoi ils doivent se convertir à la foi catholique. Il y a aussi un deuxième point qui est important pour convertir la population, c'est la question du calice, souvent. Parce que le calice a été...
Ça a été le symbole des utraquistes avant tout. Enfin, c'est le symbole des protestants, en tout cas des hussites. Ouais.
Voilà, c'est le symbole des hussites. Mais les autres protestants l'ont utilisé pour prouver que quand le Christ dit « prenez et buvez-en tous », c'est-à-dire que tout le monde doit boire au calice, donc tout le monde doit recevoir la communion sous les deux espèces, c'est un commandement du Christ et que l'Église de Rome ne respecte pas. Donc l'Église de Rome ne peut pas être la vraie Église catholique. Voilà le raisonnement des protestants, non seulement utraquistes, mais plus largement luthériens, unité des frères, etc. Que font les jésuites et que font plus largement les polémistes catholiques ? Ils essaient de prouver et d'expliquer aux fidèles pourquoi il y a eu la suppression du calice dans l'Église catholique, pourquoi l'Église catholique a le droit qu'elle tient du Christ de le faire. Et ce sont deux points très importants de la polémique et ce sont souvent les deux points autour desquels tournent les tentatives de construction et de conversion, pardon.
On sait évidemment que, disons, le pouvoir catholique a récupéré ou plus ou moins inventé la légende de Saint Jean Nepomucène. Est-ce qu'il y a d'autres outils symboliques comme celui-ci qui sont utilisés par le pouvoir catholique pour disons, convertir ou reconvertir, reconquérir?
Pour la légende de Saint Jean Nepomucène, bon, c'est un très vaste sujet. Il y a un très bon livre sur la question, de Rack, notamment. Il est certain que la légende de Saint Jean Nepomucène, ce n'est pas une invention de la fin du XVIIe siècle, au moment où commence à se développer le culte de Saint Jean Nepomucène. C'est quelque chose qui est plus ancien. Et il est certain aussi que on disposait à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, de très peu de documents sur la mort de Jean de Pomuc. Alors, est-ce que ça a été utilisé pour effacer le culte de Jean Hus, comme on le lit parfois? Quand on lit les sermons à la gloire de Saint Jean Nepomucène, quand on voit les gens qui parlent du culte de Saint Jean Nepomucène à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, on n'a pas vraiment l'impression que la véritable intention dans le développement de ce culte, ce soit vraiment d'effacer le culte de Jean Hus. Il s'agit bien plutôt d'exalter la foi catholique des Tchèques, d'exalter le pays dans une forme typiquement baroque de patriotisme. Et ce patriotisme baroque, on le retrouverait ailleurs qu'autour de Saint Jean Nepomucène, autour de Saint Venceslas, autour de Saint Adalbert. En Moravie, on le trouverait autour du culte de Saint Cyril et Méthode, etc. Donc là, il est certain qu'on a une série de saints typiquement tchèques, mais reste à savoir si ces saints sont utilisés consciemment à des fins de propagande, ce qui me semble, à la lecture des sources, difficile à établir vraiment, ou si ce sont simplement ces membres du haut clergé tchèque qui se sentent à la fois aussi bien tchèques que catholiques, et en tant qu'ils sont et tchèques et catholiques, sont fiers donc de Saint Jean Nepomucène, de Saint Venceslas, de Saint Adalbert, etc. Passé le moment où, au début du XVIIe siècle, on se sert du passé catholique, du royaume, pour prouver que l'Église catholique est la vraie Église du Christ, ensuite il reste le culte des saints, et ce culte des saints, comme chacun sait, en Bohême, mais aussi dans tout le reste de l'Europe, c'est lié au patriotisme. Lorsque vous prenez la France du XVIe siècle, ce qui intéresse les Français du XVIe siècle, c'est le culte des saints les plus anciens, et non pas des saints de la fin du Moyen-Âge. Lorsque vous prenez la Bohème du XVIIe siècle, c'est la même chose. Ce qui les intéresse, ce n'est pas des saints victimes, des hussites, etc. Ça, pour eux, c'est beaucoup trop moderne. Ce qui les intéresse, c'est les saints vraiment qui remontent à l'Antiquité.
Finalement, les gens aiment toujours les belles histoires, enfin, on les conte finalement d'une certaine façon, les légendes.
Voilà, quand il y a quelque chose de très ancien qui semble remonter à la nuit des temps et sur lequel tout le monde s'accorde, puisque tout le monde s'accorde sur des personnages comme Saint Venceslas, eh ben, ça convient à tout le monde et ce sont les histoires que les gens préfèrent. Et il est certain que la géographie a ça d'agréable par rapport aux biographies normales, que la géographie, c'est quelque chose qui se termine bien. Et c'est profondément agréable pour le lecteur.
Et puis c'est difficile à contester surtout. Alors pour terminer, justement, pour revenir un petit peu plus dans l'actualité, récemment un collectif d'artistes et de hackers tchèques, le groupe Storoven, qui est assez connu, est intervenu dans l'espace urbain pragois sur un monument qui commémore l'exécution le 21 juin 1621 des 27 leaders de l'insurrection protestante contre le pouvoir des Habsbourg. Ce monument se trouve sur la place de la Vieille Ville, à côté de l'hôtel de ville. Ils ont rajouté une 28e croix au monument dédié en leur mémoire, rappelant l'existence d'un 28e seigneur, Martin Fruwein. Qu'avez-vous pensé de cette intervention moderne?
C'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de fouiller dans l'histoire de leur pays et d'être assez érudits pour rajouter une 28e croix pour le pauvre Martin Fruwein qui était mort avant son exécution. Bon, alors c'est profondément réjouissant de voir qu'il y a des gens qui connaissent si bien l'histoire de leur pays. Alors, que l'on puisse utiliser des événements historiques importants à des fins politiques modernes, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu et on peut s'en offusquer en disant que c'est trahir l'histoire telle qu'elle a été vraiment, mais l'histoire finalement n'appartient pas simplement aux historiens, elle appartient à tout le monde, donc il n'y a pas vraiment à formuler d'objection. Pour cette histoire des croix sur le sol de la place de la vieille ville à Prague. Cette exécution est tout à fait intéressante parce qu'elle a eu lieu à un moment où la propagande et la contre-propagande sont telles au début de la guerre de 30 ans que ça devient tout de suite un événement fondamental. et que dès son utilisation par la polémique de la guerre de 30 ans, pro ou anti-Habsbourg, jusqu'à nos jours, l'événement semble avoir gardé une aura tragique. Alors quand on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays où il y a des répressions, et des répressions tout à fait sanglantes, voire plus sanglantes finalement que celles de la révolte de Bohème, et où ces répressions sont totalement passées dans l'oubli, on mesure finalement les avantages et les inconvénients de ce qu'on appelle maintenant la mémoire. Et donc c'est plus en fait une question qui a trait à l'histoire de la mémoire qu'à l'histoire simplement du XVIIe siècle.
C'était l'historien Nicolas Richard sur Radio Prague. Et c'est la fin de notre émission en français présentée aujourd'hui par Magdalena Hrozinková. Merci de l'avoir suivie.